Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, à Passagem de Nível, votre compagnie, ce dimanche 29 juin, jusqu'à 14h, et voilà le menu. Et on va commencer déjà à parler des élections municipales, je sais que c'est en mars 2026, mais entre-temps, on commence à élaborer des programmes et choisir des candidats. Aujourd'hui, on démarre une série d'émissions, justement, on va anticiper tout ce qui va se passer les prochains mois. Avec nous, ici dans le studio, on a Julien Léger, chef de file du PCF à Champigny-sur-Marne, et qui va être candidat à la mairie de Champigny-sur-Marne. Justement, après, on ira jusqu'à Cher et après, tout près, à Cher, oui, dans le département 78. Et deux livres. Déjà, Manuel du bon fasciste, Rui Zinck. Il faut dire que ce livre-là date de 2019, voilà exactement, et ça anticipe tout ce qui est en train de se passer au Portugal avec l'extrême droite. Un autre livre, c'est un roman policier, mais enfin, Le Club de Macao, mais finalement, l'écrivain derrière tout ça, qu'est-ce qu'il parle? Il parle justement de l'arrière-cour, de la classe politique portugaise. Et on va parler de littérature dans la mesure où il a été nommé co-directeur scientifique à sa côté de la lusophonie de l'université Clermont-Ferrand. Il s'agit des éditions Honoré Champion. Avant tout, Julien Léger, bonjour et merci d'être là avec nous.
Eh ben, merci de votre invitation.
Alors, c'est vrai que vous venez un petit peu un voisin. C'est que, bon, j'ai dit en introduction de cette émission, justement, on est encore à temps, mais enfin, alors, question directe et la première. Avec tout ce qui se passe au niveau international, mais surtout au niveau de la politique nationale, comment regarder ces conséquences au niveau des départements et des municipalités?
Eh ben, écoutez, il y a forcément un lien entre la politique nationale qui est menée et puis les incidences pour les collectivités locales, on le sait. C'est un contexte d'austérité très dur. On a une alliance des droites au pouvoir entre les macronistes et les LR qui, depuis qu'ils sont dans cette alliance-là, vont très fort sur la réduction de tous les budgets publics, ont décidé d'épargner les classes les plus fortunés. Ils veulent épargner les grands actionnaires, les grandes entreprises, les grands groupes. Ils veulent pas leur faire payer à leur juste valeur. Et donc, forcément, ils se retournent vers tous les protections sociales, les droits sociaux et les salariés pour faire payer la facture. Donc, on sait qu'il y a un lien entre le national et les collectivités locales. Oui.
Alors, je me souviens du gouvernement Barnier. Il a demandé aux collectivités territoriales de faire environ, les chiffres, ça change, entre 3 et 5 milliards. Le département 94 et la mairie de Champigny, ils ont immédiatement appliqué ça, et pourtant, le gouvernement Barnier est parti. Donc, vous, sur le terrain, qu'est-ce que vous avez constaté avec ces coupes au niveau du département et de la ville?
Eh ben, vous avez raison, puisque le maire de droite de Champigny-sur-Marne s'était insurgé contre les baisses du gouvernement Barnier, mais pour autant, il est de la même famille politique, donc il a refusé l'héritage, mais on peut pas s'en défaire, hein, quand c'est sa famille politique qui organise cela. Et il a même dit que lui, il souhaitait aller plus loin. Par exemple, il aurait bien aimé supprimer 80 postes supplémentaires à la mairie de Champigny, mais il pouvait pas le faire à cause du statut des fonctionnaires qui protégeaient les agents. Il l'a dit dans Le Parisien le 18 mars dernier. Donc pour nous, ce qu'on constate justement depuis, c'est qu'il utilise cet argument de l'austérité pour déstructurer un peu plus encore les services publics, privatiser, réduire les postes, et surtout utiliser beaucoup de vacataires, abuser de la précarité dans la mairie de Champigny.
Alors concrètement, pour les Champinois et Champinoises, concrètement, ces coupes sont manifestées comment dans la vie quotidienne? Concrètement,
c'est dans la vie quotidienne, ce sont une baisse de qualité des services publics. Il a fait le choix, par exemple, au début de son mandat, de réduire avec le territoire le nombre de passages des encombrants, qui passaient deux fois par mois, qui passent plus qu'une fois par mois. On a des dépôts sauvages dans la ville qui s'accumulent. Les agents de la propreté ne sont pas assez nombreux pour faire le travail. Et il y a un problème de propreté dans notre ville majeure. Il a réduit et privatisé surtout la restauration scolaire. Et bien aujourd'hui, les enfants disent « il n'y a pas assez à manger ». On a faim en rentrant le soir parce qu'ils ne mangent pas assez, qu'on a choisi une privatisation.
Donc ça veut dire cantine bio, on passe.
On n'est pas encore effectivement suffisamment aux objectifs et on aimerait bien, nous, pouvoir avoir une réflexion sur l'avenir pour revenir en gestion publique. Bien sûr, on le mettra en débat et pour avoir des meilleurs objectifs que ce qui est fait aujourd'hui, ça c'est certain.
Alors, ça concerne le programme, bon, il est en train d'être élaboré, parce que je pense qu'il parle de programme, parle automatiquement de coalition. On va y revenir. Mais parlons de la situation dans le 94. Le 94, bon, c'était pratiquement le dernier département de ce qu'on appelle la ceinture rouge, qui est bon, quelque chose qui est surtout après la libération, à partir de 45. Et justement, Champigny, et le département 94, pendant des décennies, c'était le Parti communiste qui était à la tête. Bon, très bien. 2020. La mairie de Champigny, sûrement, passe à droite. Un certain nombre de mairies autour, qui étaient PCF, sont devenues à droite aussi. Le département, il bascule en 2021. Donc, à l'époque, le président du conseil départemental, c'était Monsieur Christian Favier. C'était le seul département en France qui était dirigé par le PCF. Qu'est-ce qui se passe avec votre parti ?
Eh bien, bon, moi, déjà, pour le Parti communiste, on ne peut pas nier qu'il y a eu un affaiblissement. Et dans ce qu'on a appelé le communisme municipal, il y a eu un affaiblissement. Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons. Il y en a une d'entre elles qui est peut-être un manque de renouvellement qu'on n'a pas su anticiper de nos, soit de nos pratiques, mais même des hommes et des femmes parfois, peut-être des mandats un peu longs, etc. Donc on a peut-être un peu péché de cette manière à pas offrir assez de renouvellement de nos pratiques. Puis aussi, il y a quelque chose de plus structurel. J'ai dit cette austérité, cette perte d'autonomie des collectivités territoriales. On avait développé des politiques très innovantes qui allaient parfois au-delà des compétences strictes des communes pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Et quand on nous a enlevé la taxe professionnelle d'un côté et baissé les dotations d'État de l'autre, l'étranglement financier a fait que, petit à petit, les populations se sont pas reconnues, même les agents publics ont demandé pourquoi, alors qu'une mairie était communiste, qu'elle avait l'habitude de faire des choses très volontaristes, elle pouvait plus les faire. Et on n'a peut-être pas su collectivement répondre à ce défi.
Alors, certains disent, bon, c'est à cause de François Mitterrand que le PC a disparu, parce qu'à un moment donné, c'était plus de 25% des électeurs en France. Attention, mais même à un moment donné, 30%. Bon, aujourd'hui, c'est réduit à une portion congrue. Et mais au milieu de tout ça, bon, je me souviens que dans le temps, dans le vieux temps, n'est-ce pas, les associations de locataires, un certain nombre de choses. Le dimanche, dans le marché, on voyait des militants, des vieux militants, avant de les mains, dimanche. Il y avait tout un travail. Dans les quartiers, c'est disparu, ça, complètement. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite qui envahit tous ces terrains-là.
Alors, chez nous, en tout cas, fort heureusement, l'extrême droite n'a pas encore réussi à remplacer, et de loin, tout l'ancrage populaire que représentait le Parti communiste. Pour l'instant, d'ailleurs, il n'a pas été remplacé du tout par personne. C'est plutôt un vide général, effectivement. Il y a eu, je pense, des responsabilités aussi collectives. Moi, je dis souvent aux salariés dans les entreprises, comme aux habitants dans les villes, vous savez, si vous voulez revivre comme avant, puisque vous idéalisez parfois le temps d'avant, mais le temps d'avant, on avait...
Le temps d'avant,
celui où, et c'est ce que je leur dis, celui où vous aviez des millions de syndiqués en France et vous aviez au Parti communiste des centaines de milliers de membres. Alors, il ne tient qu'à vous si vous voulez revenir au temps où, en fait, l'affrontement de classes qui existe était plus équilibré, où effectivement les travailleurs, la population, les salariés avaient des représentants plus forts pour se les replanter. Il ne tient qu'à vous de vous réinvestir collectivement. Lâchons un peu, j'ai envie de dire, un peu nos smartphones et nos bulles de réseaux sociaux et vivons la vraie vie tous ensemble. Je pense que ça sera souvent plus efficace.
Alors, monsieur Julien Léger, mais il n'y a plus de classe, il paraît. Il n'y a plus de classe. Bon, et enfin, bon, écoutez, je vais citer une interview que vous avez accordée Le Monde. Le Monde daté du 9 août 2024. Oui, j'essaie d'avoir de la mémoire, vous savez. Alors, vous dites, ça concerne la 5e circo du Val-de-Marne. Donc, lors de toutes les élections intermédiaires depuis les municipales de 2020, la gauche est majoritaire sur la commune, se félicite le communiste. C'est une ville qui vote à gauche et a un maire à droite, une sorte d'anomalie qui donne de l'espoir, mais sans triomphalisme. Alors, sans tomber dans le triomphalisme, pour 2026,
comment on voit les choses ?
Ben oui.
Eh bien, écoutez, oui. Bah oui, je confirme que vous pourrez vérifier toutes les élections intermédiaires depuis la municipale, y compris même la départementale, c'est paradoxal, sur la ville de Champigny, je dis bien sur la ville de Champigny, ont eu, quand on additionne les voix de la départementale, même une courte majorité de voix pour la gauche. Et ensuite, depuis, tout s'est confirmé. Mmh. Alors, avec 14 000 voix pour la gauche en 2024 au second tour des législatives, on pense quand même qu'il y a un sacré potentiel, une sacrée disponibilité, un nombre important d'électeurs qui souhaitent le changement, puisque lors de cette législative qui n'est pas vieille, c'était juillet dernier, le maire de Champigny a fait une campagne farouchement opposée au candidat que j'étais. Il a donné, posé de tout son poing pour appeler à voter pour le macroniste Mathieu Lefebvre, l'alliance des droites dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, il a eu une nouvelle défaite après celle qu'il avait reçue sur sa candidate Valérie Pécresse au présidentiel, etc. Alors oui, on a un espoir, mais sans triomphalisme, parce qu'une élection municipale n'est pas une élection législative, on en a bien conscience, et qu'il faudra que chaque Campinois puisse nous rejoindre pour contribuer au futur programme pour changer.
Alors, parlons de programme, qui est des programmes, des alliances, hein, parce qu'on sait très bien que apparemment, quand la gauche est unie, elle arrive à gagner quand même. J'ai devant moi deux déclarations. Déclaration commune des sections du Parti communiste français, du Parti socialiste Champigny-sur-Marne. Une autre des sections du Parti communiste français, de génération de Champigny-sur-Marne. Bon, donc apparemment, l'alliance à gauche commence. Sur quelle base? Base programmatique? Sur quelle base exactement? Parce qu'il suffit pas de dire on est ensemble, parce qu'il faut mettre la droite, il faut quand même faire des propositions. C'est vrai qu'on n'est pas encore en campagne électorale, le programme n'est pas complètement fait, on s'en fout. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous avancer déjà là-dessus?
Écoutez, déjà, on est parti de ce qui existait. Le NFP, le Nouveau Front Populaire, on n'a pas raconté aux électeurs des craques en juillet. On a dit qu'on avait une base programmatique, qu'on était d'accord avec celle-là au niveau national, et on a dit au niveau des forces du NFP depuis des mois qu'on chercherait pendant la municipale à entretenir cette dynamique de changement. Mmh. Alors, c'est déjà une base intéressante et elle nous a permis, je vous l'ai dit, d'avoir aujourd'hui encore 5 forces qui discutent entre elles pour essayer de trouver une solution, un accord pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, la France Insoumise qui nous a annoncé qu'elle souhaitait faire sa liste de son côté, mais on a bon espoir de la faire revenir. Et quand je peux vous répondre peut-être sur les aspects programmatiques, effectivement, on n'en est pas encore à un stade d'un programme, mais les forces qui discutent entre elles discutent sur la base de grands objectifs à ce stade, qui nous permettent quand même de pouvoir être largement dans une autre optique alternative à celle du maire actuel. Quand nous allons avancer une ville profondément démocratique, ça a du sens à Champigny de parler de la démocratie locale aujourd'hui. Elle a été totalement saccagée, elle n'existe plus. Une ville pour la paix, alors que le maire de droite a quitté le réseau des maires pour la paix. Il n'a pas trouvé mieux que de quitter ce réseau qui avait été fondé par le maire de Hiroshima et Nagasaki. C'est un symbole. Et il l'a quitté au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Quand on dit une ville pour la paix, au vu de ce qui se passe dans le monde, c'est important quand même.
Oui, non mais par rapport à France Insoumise, on avait le résultat, c'est que ça a donné la liste à peur, justement, de France Insoumise à Villeneuve-Saint-Georges. Donc, la gauche, celle a été unie, bon, en principe, elle passerait. Mais quand bon, vous avez été, justement, comme vous aviez dit, candidat aux législatives 2024 du Nouveau Front Populaire, quelle campagne vous avez fait en quelques... Bon, en résumé, la réponse, s'il vous plaît. Parce que quand on a eu France Insoumise, son drapeau, c'était la lutte juste du peuple palestinien. Bon, finalement, on est aux élections législatives, aux... lutter pour que la reconnaissance de l'État palestinien.
Écoutez, moi c'est exactement ce qu'on a dit à nos amis de la France Insoumise et à toutes les forces de gauche. Il s'est passé quelque chose dans nos quartiers, il s'est passé quelque chose à Champigny lors des élections législatives. On a eu des jeunes qui sont partis avec leur famille entière voter pour se débarrasser de l'extrême droite dont ils ne voulaient pas, l'extrême droite diviseuse et raciste au pouvoir. On a eu cet élan formidable autour de notre campagne avec des meetings comme on n'en avait jamais fait, proche de 400 à 500 personnes au Bois-l'Abbé pour finir la campagne tous ensemble. Alors on a dit à nos amis...
Quand on parle du Bois-l'Abbé, bon, il y a le Bois-l'Abbé, il y a les Morins...
Oui, bien sûr,
c'est des
grands quartiers
bien,
où les gens ne se mobilisent pas forcément toujours assez pour la politique. Et là, on a dit à nos amis de France Insoumise, comme à toutes les forces de gauche, gardons cet état d'esprit. Aujourd'hui, moi j'ai été un candidat, il me semble, en tout cas ils m'ont pas dit le contraire, assez ouvert et qui a pu fédérer toutes les forces sans trop jouer de mon... Vous voyez que vous m'avez présenté comme candidat du PCF, c'est certes, je suis au PCF, je ne le lis pas, je m'en cache pas. Par contre, je ne serai pas demain un candidat qui fera juste la politique du PCF. Je suis prêt à être le candidat d'une union de la gauche.
Alors, Champigny-sur-Marne, moi, je connais bien Mordac, Bois-l'Abbé, j'ai habité pas très loin, il y a pas mal de temps. Et à Champigny-sur-Marne, comme beaucoup de votre ville, il y a une grande concentration d'apercevoir ensemble les bars, les tours, l'appelons comme on veut. Et curieusement, Champigny ne veut plus de HLM, ne veut plus de logement pour des gens qui ont des bas salaires. Au niveau du département, ça a été clair. Et comment est-ce que vous voyez la situation par rapport au logement à Champigny?
Ben, c'est assez tragique d'ailleurs, hein, puisque en fait, le maire de droite s'est fait élire sur des promesses d'un arrêt du bétonnage. Les gens ont cru qu'il arrêterait le bétonnage, qu'il ferait plus de nouveaux logements. Et en fait, il a construit plus de 2000 logements depuis qu'il est là. Et alors, des immeubles grand standing, les promoteurs s'en donnent à cœur joie, sont très heureux, mais sur des immeubles qui sortent avec des prix à 6000 à 7000 euros le mètre carré, c'est-à-dire les prix d'arrondissement parisien. Et les habitants de Champigny médusés, les demandeurs de logements ou les couches moyennes, voire les couches supérieures, se disent « Mais pour qui ?» sont construits ces logements, puisqu'aucun d'entre nous ne peut les acheter. L'immeuble, on va dire symbole, celui sur l'ancienne place Lénine, qu'il a souhaité débaptiser, c'est l'appartement à 825 000 euros, qui aujourd'hui est le grand symbole de cette explosion du foncier et des prix immobiliers. On a l'impression qu'on est entré dans une ère aujourd'hui de la spéculation immobilière à Champigny, quoi.
Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de Champigny? Je vais vous demander aussi une réponse courte. Parce qu'on sait très bien que les services publics sont en train de disparaître. Au niveau de 94, je compte plus les bureaux de poste qui ont disparu. Les permanences de la CAF, les permanences de la sécurité sociale, les impôts, c'est pas agréable, mais enfin, c'est bien d'avoir une recette des impôts à côté. C'est une recette, mais en réalité, c'est nous qui payons. Donc, tous ces services publics au niveau Champigny-sur-Marne, comment est-ce que la population réagit à ces fermetures?
Elle est pas contente, mais surtout qu'on lui en parle, parce que on est aux côtés des parents d'élèves qui estiment qu'aujourd'hui les classes surchargées à Champigny, c'est un problème. On n'a jamais trouvé le maire à nos côtés pour se battre là-dessus, ou très rarement, et il nous a plutôt même envoyé la police parfois pour déloger les parents qui occupaient pacifiquement les écoles. Aujourd'hui, notre maire nous dit, regardez, j'ai ouvert un nouvel équipement, une mini crèche privée. Mais, on s'est renseigné des prix des crèches privées. C'est 2 à 3 fois le prix d'une crèche publique pour les gens. Mmh. Donc, en fait, c'est pareil. Il nous met des services comme cela. Mais pendant ce temps, on a des crèches qui ferment au niveau du département.
Mmh. Alors, il nous reste 3 minutes. Avant de parler, d'ailleurs, de la réunion publique du vendredi 27 juin à 19h, salle des Villettes, 106 avenue de la République, à Champigny-sur-Marne. Qu'est-ce qui risque de se passer avec le musée de la Résistance nationale à Champigny-sur-Marne? Il a été, d'ailleurs, créé en 1985. Qu'est-ce qui se passe étant donné tout notre environnement, extrême droite, néofascisme, etc., etc.? Apparemment, il n'y a plus de subventions, elles ont été coupées d'une façon énorme de la part de la ville et du département. Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
On vit un scandale, en fait. Effectivement, on est dans le 80e anniversaire de la libération des camps et de la libération tout court. Ce musée, c'est un trésor pour nous, un trésor de mémoire. Il y a 1 million de pièces avec la fameuse lettre de Guy Mocquet à l'intérieur. Elle a été créée, il faut le savoir, par des résistants de toute obédience. C'est important de le dire. Il y avait des communistes, il y avait des gaullistes qui ont pris part à la création de ce musée. Et aujourd'hui, on a un maire qui a un outil devant lui et qui souhaite à tout prix en prendre le contrôle. On ne sait pas pourquoi il veut en prendre le contrôle, mais il fait donc pratique un chantage à la subvention. Et il a donc supprimé, oui, très très fortement, la subvention est passée à peine à 10 000 euros là, en 2025, après avoir été totalement coupée de 2022 à 2024. Ce qui fait quand même un manque à gagner de plus de 170 000 euros pour le musée. Le département s'est aligné à réduire sa subvention, et celui du territoire, pareil. Vous imaginez que cet équipement, aujourd'hui, est étranglé financièrement.
Oui, déjà, il y avait ces menaces-là de prise de contrôle, je me souviens. C'est déjà, il y a un an ou deux en arrière, il y avait déjà eu des résistances, justement, on est au musée national de résistance de Champigny-sur-Marne. Julien Léger, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes chef des villes du PCF et vous êtes en train de préparer une liste de gauche pour les municipales de 2026. Alors, cette rencontre citoyenne du 27.
Ah, c'était un beau moment, un très beau moment. Comme toutes les rencontres que nous faisons, on a eu des nouveaux visages et
non,
surtout...
Non, je veux dire, la prochaine, c'est le 27 juin.
Non, le 27
c'est
passé.
C'est déjà passé, quoi. En effet.
C'était vendredi.
C'était, oui.
Et on a eu un super événement où des gens de tous les quartiers, de tous les âges, de toutes les origines se sont présentés. Et ça a été un moment formidable où, justement, il y a eu la restitution de groupe puisque j'ai créé un comité citoyen. J'appelle tout le monde à le rejoindre. Où des centaines d'habitants, aujourd'hui, élaborent ensemble un projet pour l'avenir de notre ville.
Donc, ce projet, vous allez le tracter, comment on dit, qu'est-ce qui va se passer?
On va attendre de pouvoir rencontrer les forces de gauche et continuer de finaliser l'alliance pour qu'ensuite les propositions qui ont été faites par les citoyens avec celles des forces de gauche puissent élaborer le projet final. Et je pense qu'aux alentours de la fin de l'été, on pourra avoir des éléments beaucoup plus probants.
Alors, notre vie quotidienne, stop galère, je pense que vous savez de quoi je parle. Quand on parle de stop galère, effectivement, les transports en commun, bon, la SNCF, il n'y a plus de retard, on supprime les trains. Sans parler des centaines de bus fantômes et tout ça. Au niveau de Champigny-sur-Marne, dans les transports, comment ça se passe?
Alors, on a mené nous-mêmes la lutte stop galère pendant des années. Je l'ai beaucoup menée. J'ai fait des meetings là-dessus parce que on avait à la fois d'un côté le pass Navigo qui augmentait par décision de la région, mais de l'autre côté, on avait une réduction de l'offre où il fallait attendre des heures pour avoir des bus. Les gens se plaignaient beaucoup. Aujourd'hui, avec la privatisation qui est en cours des réseaux, on est très inquiet sur aujourd'hui cette adéquation entre le service rendu et les tarifs. Et nous, à Champigny, on a un sujet, c'est principalement ceux qui sont dans les quartiers justement d'un certain nombre de quartiers, du Haut, de Queilly, de Bois-l'Abbé, de Mandac, qui sont un peu coupés quand même pour accéder même aux nouvelles gares, aux nouveaux équipements. Et aujourd'hui, on n'a pas un maire qui s'investit beaucoup sur cette question des transports. Hein.
Bon, et merci Monsieur Capitanio, c'est le président du conseil départemental, au sujet de la carte améthyste, parce que, bon, finalement, c'était les plus précaires, les handicapés, etc., etc. Ça va être une usine à gaz, bon, enfin, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé, on parlera plus tard. Julien Léger, je vous remercie d'être venu.
Et merci.
On se donne rendez-vous vers la fin septembre, début octobre, une fois que les choses seront déjà avancées. Et une fois de plus, merci d'être venu chez nous.
Eh bien, grand merci à vous et un bonjour à tous mes amis portugais.
E voltamos ao direto neste domingo, dia 29 de junho. E continuamos agora, onde não é para campanha, longe disso, loin s'en faut, como diria l'autre em français. On a été à Champigny-sur-Marne, no departamento da radio. Maintenant, on part dans le 78. Carlos Lopes, bonjour.
Bonjour, Arthur Sylvain.
Alors, vous êtes candidat sans étiquette à la mairie d'Achères. Alors, il faut dire que, bon, vous êtes passé par pas mal d'endroits. Qu'est-ce que je raconte? Oui, concrètement, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est Achères, oui, Achères. Oula, je me mélange les pinceaux. Ça n'empêche que vous avez déjà, bon, vous avez été élu municipalement, à un moment donné.
Oui. Oui, en fait, j'ai habité Houille très longtemps, j'ai eu une activité très importante sur Houille. J'ai été deux fois tête de liste au municipal. Pour les Verts. Et puis là, en 2014, on a fait une alliance avec Claude Boivin sur place, voilà. Mais j'ai habité à Houille, j'ai travaillé à Achères depuis 1990. J'ai été recruté par Pierre Soula et Bertrand Tess, et donc au service jeunesse, j'ai fait la création du service jeunesse. Mais j'habitais à Houille, je continuais à habiter à Houille. Il se trouve que là, il y a 3 ans, j'ai, pour des raisons personnelles, décidé de venir habiter à Achères, puisque c'est une ville qui me plaît et dont ma femme est issue. Et voilà. Et donc, comme j'ai fait pas mal de choses dans cette ville, auprès de la jeunesse particulièrement, mais pas que, auprès des entreprises, il y a des personnes qui sont venues me demander, écoute Carlos, on sait que tu as un petit parcours politique sur Houille, est-ce que tu voudrais pas être candidat sur Achères? Voilà un peu l'historique rapide.
Alors, quand j'ai bien entendu, bon, je pense que vous êtes en train d'élaborer le programme. On aura plus tard, quand il y aura la campagne électorale officielle, de ce moment, de vous inviter à venir ici dans le studio. Mais vous avez un mot d'ordre. Vous voulez être au service de la population plus que de l'individu. Je pense que ça mérite une explication. La population plus que l'individu.
Oui, parce que souvent le problème aujourd'hui dans beaucoup de villes, hein, c'est pas spécifique à HR, on est dans une situation où les gens sont de plus en plus individualistes. Il y a plus cette volonté de reconnaître l'autre, de partager des choses, quelles que soient nos orientations politiques, religieuses, etc. Et donc je pense que c'est, et puis le climat international, hein, n'y aide pas évidemment. Et je pense que HR a connu avec le maire Pierre Soula et puis continuer avec Alain Outreman, ils ont connu une période où les gens se parlaient, les Maghrébins parlaient au portugais, les portugais parlaient voilà, il y avait une vraie vie collective et ça s'est perdu. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai accepté de prendre cette candidature, d'être candidat au municipal, parce que je pense que sur HR on est encore capable, il y a encore des souvenirs dans la tête des gens, même si ça commence un peu à disparaître, mais il y a encore dans la tête des gens, ces réunions, ces endroits. Un exemple, on avait une fête qui s'appelait Fête de l'amitié sous les mandats précédents. Le mandat actuel, ils ont transformé ça en Fête de l'été. Pourquoi pas ? Mais franchement, je préfère largement le symbole de Fête de l'amitié que la Fête de l'été. Voilà, c'est un peu les exemples, un peu l'histoire du mot d'ordre.
Alors, vous avancez aussi, vous abordez un certain nombre de thèmes, mais on attend le programme. Par exemple, bienveillance d'accompagnement. Pour quelques tranches d'âge que ce soit. Une autre, quelque chose que vous prêtez attention, c'est les quartiers populaires. Bon, en banlieue, on a l'habitude de dire les quartiers sensibles, entre guillemets. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette terminologie. Les quartiers populaires, ça doit être encore la base, d'après vous, de la vie de la chair.
Historiquement, la ville d'Achères a accueilli beaucoup, beaucoup de monde. C'est une ville qui est au centre, qui a eu un passé ferroviaire, qui a eu un passé, il y a les écoles, il y a les usines Peugeot à côté, Stellantis maintenant. Il y avait pendant un moment toute la partie maraîchère, c'était une des terres agricoles. Donc, il y a eu beaucoup d'arrivées de personnages, de personnes, d'abord les Bretons. Les Bretons sont arrivés, après il y a eu des Polonais, des Portugais, des Algériens, des Maghrébins. Il y a toute cette population qui est arrivé et les élus de l'époque ont décidé de mettre en place un mode d'accueil qui était ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers populaires. Sur la ville d'Achères, il y a un peu moins de 50% de logements sociaux. Ceci dit, c'est la raison pour laquelle cette ville, on a la chance de pas avoir des quartiers qui sont dans un coin isolé comme moi. J'ai grandi à la Cité des Indes. Bon, voilà, la Cité des Indes, elle est dans un coin au fin fond de Sartrouville. Les quartiers populaires de Ville d'Achères, c'est la ville, c'est la moitié de la ville. Donc il y a évidemment les quartiers résidentiels, mais justement c'est l'intérêt je veux absolument qu'on arrive à faire, c'est de ne pas qu'il y ait de cassure entre ces deux, qu'il n'y ait pas de cassure entre les milieux résidentiels et les milieux populaires, parce qu'il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, on parle de, ou quand vous dites parler quartier sensible, en fait, Achères, c'est une ville qui a su, moi j'ai accompagné cette jeunesse depuis 1990. C'est une jeunesse intelligente qui a voulu discuter, qui a permis de pour qui pensait assez aux frères. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sortis mais avec des niveaux extrêmement importants, des diplômés, et donc aujourd'hui on a tendance encore malheureusement à dire quartier populaire, quartier sensible, quartier racaille, alors que mince, à un moment donné, il faut sortir de ces situations qui sont complètement fausses. La population d'Achères a envie de travailler ensemble. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui étaient dans les quartiers populaires qui ont réussi à passer et acheter une maison et être dans un parcours résidentiel. Et il faut que ça continue. Il faut qu'on puisse permettre aux gens qui ont besoin, les jeunes, les personnes qui ont moins de moyens, de pouvoir accéder au parcours HLM, on a un gros bailleur sur la ville d'Achères qui est Domnis, et quand on cherche aujourd'hui, il y a une liste d'attente extraordinaire.
Oui, la raison, comme partout.
Il y a peu de turnover sur ça.
Voilà. Le temps il avance, il nous reste environ 2-3 minutes. Alors, qui parle de liste dit colistier. Programme au niveau des colistiers. Qu'est-ce que vous avez déjà, bon, comme colistier? Comment est-ce que vous préparez votre liste? Parce qu'il suffit pas d'avoir le tête de liste.
Exactement, bien sûr. Pour les municipales, il s'agit d'une équipe. Et moi, je me suis attaché à essayer de trouver des personnes qui aiment leur ville. Franchement, c'est hyper important. Je pense qu'on veut sortir de cette idée où il y a des gens, et je pense que c'est un peu l'équipe actuelle, qui vit à Cher, mais qui a la tête ailleurs, et éventuellement Saint-Germain-en-Laye, pour ne pas la citer. Nous, on est à Cher, on est à Cherrois, et on veut travailler pour la ville d'Acher, pour tous les habitants. C'est la raison de partir sans étiquette, et c'est pour ça que actuellement les non-âmes au niveau des colistiers, on est à peu près par rapport aux 35 colistiers qui est nécessaire sur HR, on est à peu près à 20-25. Voilà. Donc on est quasiment en bouclage de liste avec des personnes qui sont reconnues par les Acherois, qui ont travaillé dans les associations, dans les écoles, qui ont été directrices d'école, qui sont sportifs, qui sont là depuis des années, et donc voilà, c'est l'idée de constituer cette liste, permettre d'avoir des gens qui sont issus de cette ville, qui aiment cette ville et qui ont envie encore de proposer des choses nouvelles pour qu'elle puisse continuer à être une ville de cœur comme est notre slogan.
Mmh. Alors, quand est-ce qu'on pourra avoir une ébauche de propositions, de programmes que vous allez présenter aux électeurs?
Alors, on y travaille, hein, on a commencé. En fait, j'étais encore employé à la ville puisque j'y ai travaillé. Donc je suis retraité depuis le 1er janvier. Quand les gens m'ont sollicité, j'avais un droit de réserve évidemment. Mais la campagne a commencé à se faire dans la ville avec les personnes qui m'ont sollicité, qui ont souhaité que je sois candidat. Et donc le programme, on est en train d'y travailler. On a commencé déjà à avoir des sujets. Évidemment les sujets, on sait très bien lesquels ils sont. Hein. On a le problème de la sécurité sur la ville d'Acher. Aujourd'hui, malheureusement, l'État s'est désengagé au niveau de la police nationale et les villes sont obligées malheureusement d'avoir un service de police municipale. Mais il faut que ça soit un service de proximité et pas uniquement un service qui soit là pour punir punitif. Il faut qu'il soit un service qui accompagne les gens et qui les aide aussi à comprendre le bien commun et comment on fonctionne ensemble.
Je vous remercie. Donc, vous êtes candidat sans étiquette à la mairie de Acher. Merci bien. Et bien entendu, on attend votre programme et vous êtes invité après quand commencera la campagne électorale pour les municipales. En principe, c'est en mars 2026. Merci bien.
Au revoir.
Au revoir. Et on va quitter Acher, mais on va pas très loin. On va aller à Houille. Julien Chambon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Monsieur le maire, alors vous êtes maire, vous avez été élu avec l'étiquette Renaissance et vous allez à nouveau vous représenter. Alors bien entendu, on va attendre votre programme, savoir un petit peu qu'est-ce que vous allez proposer pour un nouveau mandat, 6 ans de plus à la tête de la mairie de Houille. On attend la campagne électorale officielle, mais déjà peut-être, bon, c'est parce qu'on peut faire déjà un petit bilan, 5 ans sont déjà passés depuis votre élection. Et question logement. Alors, question directe, nous savons très bien qu'il y a une pénurie énorme de logements, surtout des logements avec des loyers accessibles aux gens qui ont des faibles revenus. Comment ça se passe justement au niveau de votre ville?
Oui, déjà 5 ans de travail sur une des plus belles villes des Yvelines. Donc, j'ai été élu pour regarder aussi cette belle ville, on va dire pavillonnaire. Les gens viennent beaucoup chercher ce type d'habitat. Et comme vous l'avez dit, comment est-ce qu'on fait pour proposer des logements abordables pour ceux qui en ont le plus besoin, hein, je pense à nos jardiniers, nos agents, ceux qui font vivre nos commerces, tous ceux qui ont des salaires très modestes. Alors que la ville ne peut pas non plus raser toutes ses maisons pour construire des logements pour tous. Quoi. Donc ça, c'est un gros enjeu, c'est pourquoi j'ai été élu. Ça a pris 4 ans de travail, par exemple, de refaire un peu les règles d'urbanisme de la ville. Ça nous a obligé vraiment à repenser, mais qu'est-ce qu'on préserve? Donc là, par exemple, le nouveau PLU préserve énormément de zones pavillonnaires, mais là où est-ce qu'on peut aller chercher, en effet, à fabriquer du logement pour les gens qui en ont le plus besoin. Et ça, ça a été un long travail. On a enfin, je pense, trouvé le bon équilibre pour que Houille reste vraiment une ville attractive, agréable, mais qu'au pied de la gare, on puisse en effet peut-être là rajouter quelques logements tout en étant équilibré avec avec le type d'habitat auvillois. Donc ça a été un gros enjeu de ce mandat-là, de trouver, on va dire, un urbanisme maîtrisé.
Maîtrisé. Alors, monsieur Chambron, parlons de... Bon, on sait très bien construire des immeubles, surtout des immeubles loyers modérés, il y a le problème de foncier. Alors, vous avez récupéré un terrain, sauf erreur de ma part, c'était le terrain qui était occupé par une garde désaffectée. C'est vrai?
Oui, bah ça a été un peu le dénouement de 30 ans d'immobilisme, ouais. C'est vrai. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on a presque un hectare et demi, si ce n'est plus, de friches au pied de la gare de Houille. La gare de Houille, c'est vraiment l'une des entrées principales de la ville, hein, finalement, quand on y réfléchit. Parce que c'est ça qui a permis le développement de la commune très rapidement au 19e siècle et même après-guerre. Et tout le monde utilise la gare, hein, pour aller travailler. C'est une des zones centrales pour vivre sur Paris, pour vivre sur Houille, aller travailler sur Paris. Et on avait en effet ce terrain, c'était incongru. C'était en friche depuis des années, ça ne bougeait pas. Et là, on a réussi en effet avec une stratégie à la fois sur l'urbanisme et une stratégie très volontariste de racheter ces terrains-là à un prix, on va dire, raisonnable, qui nous permet maintenant d'envisager plus sereinement un projet, on va dire, à l'image de la ville de Houille, avec toujours, certes du logement, certes du commerce, mais quand même à taille humaine, on va dire ça comme ça.
Mais monsieur Chambon, les maires, bien entendu, les décideurs, c'est qu'ils mettent en pratique leurs idées. Bon, vous êtes maire, donc vous assumez ce que vous faites, c'est pour le bien, vous dites, des citoyens qui résident justement à Houille. Certains vous reprochent d'être de quelque sorte de faire un petit bout de gentrification, à savoir de réserver, etc., accès à la propriété et les appartements, des immeubles à louer, il y en a très peu.
Oui, moi je dirais que déjà j'assume totalement le fait de se dire que les Français, ils aspirent à être propriétaires, et je trouve ça bien de les y aider. Parce que ça veut dire que on peut trouver des solutions aussi pour qu'on devienne propriétaire sans qu'on soit forcément richissime, hein, mais qu'on puisse accéder au crédit. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu en France qu'on puisse continuer à vouloir devenir propriétaire, mais quand on est issu de la classe moyenne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils ont pas assez de revenus pour ça, ils peuvent pas emprunter. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour que la première étape dans la vie, vous démarrez, vous êtes un jeune actif, ou vous avez une petite famille pour démarrer. Là, il faut en effet des loyers abordables. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut faire. Justement, en achetant ce terrain près de la gare, on peut se permettre d'aller construire des logements abordables. En travaillant sur les boulevards, sur les zones un petit peu comme ça à renouveler, on peut se permettre de trouver des solutions pour les gens, pour des loyers moins chers. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on teste, hein, on va lancer ça cette année, ça s'appelle le BRS, le bail réel solidaire. Vous êtes justement de la classe moyenne, vous gagnez 2000, 2200 euros par mois, 2500 euros par mois, c'est à la fois beaucoup pour avoir certaines aides, mais pas assez parfois pour emprunter. Et ben, on va vous aider à acheter un appartement 30% moins cher que le prix du marché. Vous deviendrez propriétaire sous condition de ressources, et ce sera, j'espère, la première, un peu pour mettre le pied à l'étrier, pour devenir propriétaire, et après pouvoir se lancer sur ce type de bien, quoi. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on va lancer sur Houille, et ça s'adresse justement à ce que vous disiez, bah, c'est pas juste à ceux qui gagnent plus de 3 500, 4 000 euros par mois, ce qui est déjà très important, et ben non, on s'adresse aussi à ceux qui sont issus de la classe moyenne, et on veut qu'ils aient ce rêve de devenir aussi propriétaire.
Oui, parce que malheureusement, on a beaucoup de couples qui travaillent et qui n'arrivent même pas à trouver un logement à louer. Alors, monsieur le maire, quand on parle de déserts médicaux, bien entendu, on pense à la Corrèze, on pense à tout ça, mais il y a des problèmes comme ça dans la région parisienne. Qu'est-ce qui se passe exactement à Louse? Oui, puisque je pense que c'était une de vos préoccupations.
Vous avez tout à fait raison, on a vraiment un nombre important de médecins un peu baby-boom qui partent en retraite, là, ils ont 65 ans, 70 ans, ils arrêtent. On a un vrai creux démographique, on a moins de médecins là, et puis surtout les nouveaux médecins, ils exercent moins, donc ils font moins d'heures, donc là on a vraiment un effet ciseau. On doit absolument favoriser l'installation de médecins sur la ville, en région parisienne même globalement, hein. C'est toute l'Île-de-France qui est considérée comme une désertification médicale. Donc nous, bah, oui, on a fait des choses assez radicales. On a pris des appartements de la commune qui étaient mal utilisés ou abandonnés même des fois. On les a transformés en cabinets médicaux, on les loue à 1 euro le mètre carré. Ça nous a permis là déjà d'attirer près de 3-4 nouveaux médecins. Et on a construit, on est sur un projet de construction, une grande maison médicale avec plus de 15 cabinets médicaux. Et là, pareil, on fera un loyer attractif, 30% moins cher que le prix du marché. Et surtout, c'est vraiment un lieu où les médecins aiment bien aussi exercer en collectif. Parce que les nouveaux médecins, les jeunes médecins, ils aiment bien exercer en groupe pour voir les collègues, pas forcément être tout seul, un peu comme à l'ancienne. Donc c'est pour nous des solutions très concrètes pour que les Avillois ils aient un meilleur accès aux soins concrètement, les personnes âgées qui peuvent pas se déplacer, ou même les familles avec les enfants, les petits, c'est pratique aussi d'avoir son médecin pas trop loin, surtout le médecin traitant. Donc c'est vraiment une politique très proactive qu'on a mis en œuvre. Et même, je vais vous dire, si votre médecin il a Carrières-sur-Seine ou à Sartrouville, on a même mis en place un système de transport à la demande, on vous amène à votre rendez-vous, on vous ramène chez vous, ça s'appelle la vadrouille. Donc on lutte à tous les échelons pour que les gens aient un meilleur accès aux soins.
Alors, Julien Chambon, une dernière question, encore annexe. Donc, ça veut dire que vous avez réussi à attirer des médecins généralistes, et il y a des spécialistes, des orthophonistes, etc. On sait très bien, sont des œuvres rares.
Ah là, ça c'est le plus dur, les spécialistes à attirer, ils sont plus rares, en effet, vous l'avez dit. Et en plus, on a même des spécialistes qui font, vous savez, le dermatologue, au lieu de faire de la médecine de ville, il va aller faire de la chirurgie esthétique. Donc, il va être payé 3 fois plus cher, donc on a du mal à les attirer en médecine de ville. Là, on a fait venir un ORL, qui est un spécialiste très important, notamment
pour les enfants,
les âges, mais... pour les petits, hein, quand ils ont les otites, on fait souvent appel à des ORL. Donc là, on est content, on a trouvé un ORL, et là, on cherche activement, bien sûr, un dermatologue, ça fait partie des spécialistes, on va dire, les plus fréquemment utilisés, des gynécologues. Donc, on continue notre combat, on a des arguments, on va falloir les atouts déployés pas chers, l'attractivité aussi de la ville, qui est une ville agréable à vivre. Donc, les médecins, souvent, apprécient la ville de Huy. Donc, on ne désespère pas pour faire venir encore plus de spécialistes sur Huy.
Bon, espérons-le, c'est tout ce que je demande, et j'aimerais bien, là où j'habite, de pouvoir trouver tous ces médecins-là. Bon, enfin,
bien sûr.
Monsieur Julien Chambon, merci. Donc, je vous êtes maire de Huy, département 78, vous allez vous représenter en mars 2026. Une petite question, le jumelage avec celui de Bastogne, ça avance?
Oui, ça se passe très très bien. On était au Festival International des Camélias le printemps dernier, là, il y a quelques semaines. C'était très sympathique. Mmh. Et puis l'année prochaine, on aura un peu une date anniversaire du jumelage. Donc, on sera heureux de fêter ce beau jumelage. En tout cas, on est toujours aussi fiers. Les Ovidos sont toujours très contents. On a fait une fête du Portugal, une fête des jumelages. Donc, on entretient les liens d'amitié. C'est extrêmement important. On avait des jeunes aussi, là, du foot Ovidos qui sont allés en week-end à Zurich ce week-end. Donc, ça se passe très très bien. On est contents et on est très très fiers de cette amitié franco-portugaise avec Floride de Vacheton.
Alors, monsieur le maire, vous me donnez des nouvelles, hein, en 2026 pour qu'on puisse accompagner cet anniversaire.
Ah oui, on fera une belle fête, ça c'est sûr, là-bas et ici. On ne va pas laisser passer ça.
Hein. Alors, il ne faut pas laisser non plus la radio Alpha de côté. Merci, monsieur le maire. Merci.
Invité.
Et on se donne rendez-vous, bien entendu, quand la campagne électorale officielle commencera. Et là, on va rentrer dans le détail de vos programmes, des mesures concrètes que vous proposez aux électeurs de Huy. Merci bien.
Merci, muito obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 29 de junho, emissão, lembro, com redifusão na noite de terça para quarta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Pois bem, temos dois livros até ao final da emissão, mas para já começamos com este. Manual do Bom Fascista. É o título do livro, de Rui Zinck, publicado pelas edições Ideias de Ler. Isto data de 2029. Finalmente, trata-se de um livro que, através de ironia, analisa o que é o fascismo, o racismo, a xenofobia e o que é que nós somos no meio disto tudo. E não foi por acaso que a publicação surge 2 meses antes das legislativas de 2019, que viu a entrada da extrema-direita na Assembleia da República pela primeira vez, desde a Revolução dos Cravos em 2029. Pois bem, tinham aqui, tinham eleito um deputado em 2025, já levam 60. Mas enfim, trata-se de uma entrevista realizada no dia 29 de setembro de 2019, a ter em conta essa data, porque finalmente o Ruizinho parece que antecipou muita coisa. Mas enfim, começamos. Eu vou fazer uma pequena perguntinha e depois falei ela. Manual do Bom Fascista. É evidentemente que o título tem a forma de provocação, mas, Ruizinho, que este manual é um compêndio sobre a ascensão do fascismo, dividido em 100 lições, ou pouco mais, acessíveis a aprendizes a todos os níveis. Não é por acaso que este livro é publicado agora, e nós conhecemos a forma que o Ruizinho que tem de escrever, é porque aparentemente parece que o neofascismo anda para aí, que pode nos provocar a nós problemas e mesmo aos nossos bisnetos, é isso?
Eu acho que sim. Eu acho que é isso mesmo. Que eu peço desculpa desde já por esta voz. É aquela coisa que toda a gente sabe aí, que aqui em Portugal um dos maus são as correntes de ar. Já a minha avó dizia, e eu agora fui vítima de uma. Mas o fascismo, tal como eu o vejo, é duas coisas. É, ao mesmo tempo, um conjunto de ações históricas no tempo e que teve um tempo concreto nos anos 20, 30, e que em Portugal durou demasiado tempo. Já tinha passado de moda na Europa e ainda em Portugal continuávamos com esse discurso muito fechado, de um país fechado, e agora está a voltar com uma nova forma, com novas roupas, sem fardas. Às vezes nem sequer fazem a saudação nazi, mas voltamos a ver pessoas um pouco por todo o mundo, não é só na Europa, a normalizarem discursos do ódio. E discursos que, em vez de nos aumentarem como seres humanos, nos diminuem. Discursos que puxam para baixo, para os medos, para a mente de insegurança, para o medo do estranho, em vez de nos puxarem para fora, em vez de nos dizerem, olha, isto vai ser melhor. Mas, outro sentido, sim, é o sentido de que o fascismo está dentro de nós. Ou seja, de que é uma tendência universal, e não precisa ser numa dada época, vem ao de cima, coletivamente numa dada época, mas está sempre dentro de nós. Ou seja, para mim, quando vamos pegar numa coisa que acontece muito em Portugal e também em França, que é quando o marido, por se sentir humilhado, achincalhado, ou por se sentir diminuído, decide bater na mulher ou até matar a ex-mulher, eu penso que ele está a sofrer de fascistite aguda.
Ruizinho, que há um certo número de alusões, bom, evidência aos 100 lições, bom, e bastante irónico, e não só, e aliás até há uma espécie de questionário para sabermos que espécie de bom fascismo somos.
Mas todos falhamos, confesso.
Ora, mas há todo um certo número de alusões, eu não vou avançar nomes, mas enfim, um certo número dessas lições foram tiradas, posso eu dizer, de um certo número de homens políticos e não só portugueses. Não faço alusões a ninguém. É verdade que se baseou um bocadinho num certo número de pessoas com afirmações que eles fizeram, ou atos que eles...
Sim, há citações. Eu tomei uma posição que este livro é um híbrido. Ao mesmo tempo é um livro humorado, ao mesmo tempo é um livro rigoroso, que cumpre os princípios científicos da citação, que tenta ser documentado. É um livro que dá para vários lados, como é típico dos meus livros. E eu cito autores que eu admiro e que antes de mim já trataram este assunto, mas também cito frases que a mim me parecem abomináveis e ideias que são mesmo pessoas reais. Pessoas reais, algumas famosas, outras menos famosas, umas nas redes sociais, outras nas televisões. E aí eu decidi, peço desculpa aos visados, eu decidi não pôr os nomes das pessoas que dizem coisas aberrantes, e pôr só os nomes das pessoas que dizem coisas que me interessam. E, portanto, algumas pessoas vão acusar de plágio, de apropriação, mas esta coisa horrível fui eu que disse. Não, não é dele. E eu estou à espera que eles me processem, presem a tribunal. Sim, fui eu que disse esta coisa racista. Sim, sim, fui eu que disse esta coisa abominável de que os presos deviam ser todos mortos, devia voltar a pena de morte, ou, por exemplo, uma expressão muito, muito comum a muitos portugueses, inclusive a muitos dos que nos estão a ouvir, nós sabemos isso, que às vezes uma pessoa furiosa diz, era preciso, era que fossem presos, e deitar fora a chave. Ora, esta expressão, muito parecida também com aquela ameaça do eu sei onde moras, que é intimidação pura, a ideia de é uma ameaça quase mafiosa. Aliás, máfias e fascistas são sempre muito parecidos. E essas expressões são do cotidiano mesmo. Já não é só uma pessoa que diz coisas horríveis, é uma pessoa que está a dizer uma coisa que é incómoda, mas sem dar conta que ela é horrível. Muita gente diz, os presos, os tipos, isto deviam ser presos, os pedófilos deviam ser castrados, isto, mesmo que eu concorde, isto é, eu, como pai, como ser humano, se alguém faz alguma, eu perco a cabeça, mas eu gosto de viver numa sociedade que até aos tipos que fazem coisas mais monstruosas, trata de forma decente. Para mim é a diferença, é uma diferença que é visível, por menos que eu goste, é visível entre as democracias saudáveis e as ditaduras
recentes.
Posso?
Sim, sim, Rui.
Na democracia, por exemplo, na Noruega, houve uma besta, um neonazi, que matou 70 jovens. E esse neonazi que matou 70 jovens, que era um acampamento, salvo erro, da juventude social-democrata norueguesa, esse neonazi não foi trucidado nem torturado. Está preso, é o que ele deve estar, mas está preso com direitos humanos. Ou seja, a Noruega é um regime que até a um monstro, a um inimigo da humanidade, trata humanamente. Em contrapartida, nós temos pessoas que, quando há um indivíduo que lhes desagrada, ah, aquele merceiro roubou-me do preço, ele devia era arder num caldeirão fervente. E aí eu digo, não, as pessoas que acham que todas as pessoas de quem não gostam deviam arder num caldeirão fervente vão ser atacadas de fascistite.
Rui, a propósito de situações, eu não quero fazer, ainda que o livro, não é por acaso que o livro também saiu em plena campanha eleitoral, não, o livro já saiu algumas semanas atrás, mas enfim, há um partido de extrema-direita que é candidato, não digo em que lugar é que estava, que nem ele seria fazer publicidade, mas há uma referência a propósito de citações. Eduardo Lourenço, fala-se nomeadamente dele e de uma afirmação que ele tinha relativamente a saber se o fascismo existia ou não em Portugal.
A afirmação dele é irónica. Ele coloca a questão, o livro é publicado, salvo erro, em 1977, ou seja, 3 anos depois de 25 de abril, quando a palavra fascismo estava muito em vista. Mas o que muita gente não lembra, eu lembro, por acaso, embora fosse jovem, mas pertencia a uma família antifascista, e lembro-me que o meu avô, que tinha estado preso em 1938, o meu avô, de repente, era insultado pelos círculos revanchistas no Recife, onde nós morávamos, e era insultado porque aquelas, muito rapidamente, um mês depois de 25 de abril, já havia pessoas de repente a dizerem isto não é democracia nem é nada, antigamente é que era bom, havia mais liberdade antes, já havia, ou seja, a contra-democracia não levou antes a surgir. Levou um mês depois já estava o universo do PID, o universo saudosista, revanchista, já estava organizado, já estava a conspirar, já estava a lançar boatos suezes contra os protagonistas do 25 de Abril, e o 28 de Setembro não aconteceu em 2001, o 28 de Setembro aconteceu em 1974. Foi a primeira tentativa de contragolpe. Tudo isto foi muito rápido. E é neste tempo que o Eduardo Lourenço faz um livro em que responde a esta pergunta, que é o fascismo nunca existiu, que é colocada de forma irónica. E, ou seja, existiu mesmo, sim, e há provas. é um elefante na sala. Agora, há pessoas que dizem, não foi, Salazar não foi bem fascista. Mas não foi porquê? Ah, porque ao contrário de Mussolini, ele não vestia farda. Ao contrário de Hitler, ele não criou campos de concentração. Bom, campos de concentração criou, não fez, foi aquela coisa especificamente nazi, foi querer matar toda uma parte do povo. Mas nós em Portugal, muitas vezes, quando se fala dos ciganos ou de outras minorias, não está lá a vontade de matar, mas está a vontade de ostracizar. E ainda há gente em Portugal, vamos chamar os bois pelos nomes, que mesmo 4 anos depois do António Costa ter sido primeiro-ministro, e uns gostem, outros não, mas foi em democracia, ainda há quem se refira a ele como o Monhé. Eu acho isto feio. E quem fala assim das pessoas que enfiam-me na carapuça, como dizia a minha mãe.
Ainda por cima, falando de Portugal, os grandes costumes. Para terminar, o Izink...
Repara, não é só grandes costumes. É um país de brancos costumes.
Brancos costumes. Bom, bem, enquanto eu tenho que marcar isso no meu cérebro. Para terminar, eu quero referir a uma crónica do jovem conservador de direita. Bom, é datado do dia 29 de agosto. Ele diz, devemos adquirir este manual de modo a sabermos quem são os grunhos que nos rodeiam. Quem são os grunhos, exatamente, Ruizinho?
Bom, há vários graus. Há um círculo mais flagrante, que são os grunhos conscientes, e depois, acima de tudo, o grunho que há em nós. Em mim, há uma pessoa, ou seja, em mim, há uma pessoa que, às vezes, pode ser empurrada para fazer coisas que, quando eu estou bem, acho hediondas. Ou seja, em mim há um homem que potencialmente bate na mulher. Porquê? Porque eu cresci num tempo em que, mesmo que eu seja contra, cá dentro de mim, está inconscientemente uma série de ideias que eu não posso tirar da cabeça. Quer dizer, nós que nascemos, eu nasci em 1961, no início da Guerra Colonial, eu não posso dizer que não fui molhado por aquelas águas. É muito engraçado que hoje em dia fala-se em ideologia, mas ideologia era naquela altura, quando se dizia a mulher deve obedecer ao homem como a igreja a Deus. Se entre marido e mulher não metas a colher. E portanto, a ironia é sempre perigosa, porque as pessoas podem entendê-la à letra. Mas eu acho, espero que a maior parte das pessoas se divirta com o meu livro, às vezes meta a mão na consciência e diz a Paula, este gajo apanhou-me, e perceba, a ideologia, essa ideologia nociva não está só fora de nós. Está também dentro de nós. Todos nós, quando estamos frustrados, temos um grunho cá dentro pronto a saltar. Há uns que já escancaram a porta ao grunho, há outros que a fecham mais. Eu espero ser das pessoas que mais fecha a porta ao meu grunho. E acho que ter consciência que ele existe é a melhor forma de o combater. Mas todos nós temos um fascistinha em potência dentro de nós, e eu acho que é isso que é importante sabermos.
Rui Zenca, a propósito do livro Manual do Bom Fascista, edições Ideias Ler, traz-se um livro publicado em 2019 e a entrevista foi realizada em 29 de setembro de 2019. Já lá vão praticamente 6 anos, mas isto é mais do que atual. Bom, e agora vamos falar de lusofonia, mas nada melhor do que começarmos precisamente pelo cinema, nem mais nem menos. Trata-se do filme Le Rire et le Couteau, um filme de Pedro Pinho, que vai ser estreado aqui em França no dia 9 de julho, mas antes disso há um certo número de antestreias com a presença do realizador Pedro Pinho, e assim na quinta-feira, dia 3 de julho, às 19h15, será no cinema em Paris, Luxor, Palais du Cinéma, com a presença de Pedro Pinho, que no final, evidentemente, pode dialogar com os espectadores nessa sala. Mas já que falamos do filme, o melhor ouvir, precisamente, abandonam-se, não?
Sérgio, bem-vindo. Estamos aqui à espera tua, que tivemos alguns problemas com o teu antecedor.
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
Quanto tu não fazes?
É assim, 40 mil.
Pega, 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 pega!
Por favor, guarda-me os sacos, guarda os sacos!
Ei,
Esse aqui é Sérgio.
Olha o jeito como ele está a tentar enturmar. Vai fingir que está tudo.
É um pouco até engraçado. Quem comer primeiro
o alvo,
a comida, ganha.
Estás cá a trabalhar numa ONG ou numa construção?
Olha, se queres o conselho, tira-te. Isto não interessa a ninguém.
Então, tu estás em todo lado.
Eu estou a ficar farto de caralho!
Você é muito feliz.
Do you want to be here? Why are you here?
Abandonam-se, ou como se diz em português, o trailer do filme Le Rire et le Couteau, de Pedro Pinho, que vai ser estreado em França no dia 9 de julho, mas uma antestreia com a presença do realizador, essa realiza na quinta-feira, dia 3 de julho, às 19h15, na capital, aqui em Paris, no Luxor Palais du Cinéma. Ora, este filme, a que referir, foi rodado em Cabo Verde. Ora, uma boa ligação com a Lusofonia. Sol Neiva, muito boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde.
Muito obrigado por este contacto e já agora também um grande abraço aí para a região de Clermont-Ferrand. E não só. Ora, novidade e mais uma responsabilidade para si, Sol Neiva, na medida em que, precisamente, há uma coleção que vai ser criada, Literaturas Estrangeiras, nas edições Honoré Champion, e é o Sol Neiva que tem a responsabilidade desta coleção?
Dentro, queria agradecer antes de tudo, Arthur, esse espaço. Dentro da coleção Literaturas Estrangeiras, nós vamos iniciar toda uma série dedicada inteiramente às literaturas de língua portuguesa. Literaturas, ensaios de língua sobre os países de língua portuguesa, produzidos por personalidades desses países ou especialistas desses países.
Ora, concretamente, bom, eu vou ler agora obras e estudos representativos da diversidade literária e crítica dos mundos da língua portuguesa. Uma coisa extraordinária é que, a nível da literatura, bom, nos países que antigas colónias portuguesas, pois bem, essa literatura é viva e mais do que viva, mesmo trabalho de historiadores, e é importante ver como é que, precisamente, os intelectuais desses países, que a maior parte deles tornaram-se independentes em 1975, mas para chegar aí tiveram que pegar em armas, assim que andou o mundo, ou desanda, mas enfim, e é importante agora, quer dizer, com essa literatura, com documentos, com toda uma série de coisas que surgem desses países, é um olhar diferente, relativamente àquilo que se passou, àquilo que é vida. Isso é necessário confrontar, porque até agora só havia o ponto de vista do colonizador, entre aspas.
O que vai caracterizar essa série Estudos Lusófonos dentro da editora Honoré Champion é que nós vamos procurar dar vozes a representantes das diferentes culturas lusófonas, inclusive da cultura portuguesa, da cultura brasileira, para justamente mostrar, como você chamou a atenção, a diversidade, a riqueza. Uhum. O que diferencia esse projeto é que ele vem se integrar dentro de uma editora, que é uma editora que existe já há mais de 150 anos, que tem um prestígio acadêmico altamente reconhecido, e dentro nesse âmbito nós vamos procurar chamar atenção para a apresentação de obras com densidade literária, densidade de reflexão e potencial de diálogo com questões que são altamente importantes na contemporaneidade, seja memória colonial, as formas de resistência, os saberes locais, a valorização dos saberes locais, as questões de desenvolvimento sustentável, a reinvenção estética no momento atual, por exemplo, em que nós temos toda essa, o impacto da inteligência artificial. Então, o objetivo é, dentro dessa grande editora, que tem uma tradição, que tem uma capacidade de divulgar livros junto a um público erudito, nós vamos acrescentar e acentuar o potencial de reflexão que provém dos países de língua portuguesa.
Agora foco-me um bocadinho no Brasil, porque há um grande senhor, havia um grande senhor, o Freire, que a nível de educação desenvolveu todo um certo número de ideias, todo um programa, aliás, na Guiné-Bissau, a Miquel Cabral precisamente trabalhou com ele para a Guiné-Bissau independente, de maneira que há muitos setores onde a lusofonia é bastante rica e infelizmente é completamente ou praticamente desconhecida aqui em França.
No caso da obra de Paulo Freire, é um exemplo da maneira como a lusofonia conseguiu desenvolver um pensamento e uma ação em torno da educação e realmente é uma obra de uma importância fundamental que talvez não seja suficientemente conhecida. Este exemplo, como este exemplo, nós encontraremos nos países lusófonos ou reflexões em outros setores que merecem um destaque maior. Eu diria que o público de língua francesa está pronto para ler esses livros, mas também tem demonstrado um interesse crescente para ter acesso a traduções, seja obras literárias, seja ensaios em diversos setores das humanidades.
Ora, a nível vou continuar no Brasil, temos um certo número de escritores conceituados que aqui em França, um certo meio intelectual, infelizmente, digamos, o público em geral raramente sabe que esses livros existem e por aí fora, de autores brasileiros, um deles, aliás, era para ter o Prémio Nobel de Literatura, nunca o teve, estou a pensar agora no Jorge Amado, mas é por aí fora, de maneira que uma das suas funções é precisamente é dar a conhecer esse leque da qualidade e da diversidade que existe a nível dos autores lusófonos. Se pega unicamente no Brasil, há Jorge Amado, mas há outros grandes escritores, e mesmo que não são nossos contemporâneos. De maneira que há toda uma mina, é como quem diz, há todo o material em reserva que carece de ser divulgado aqui em língua francesa.
Claro, claro, muito, exatamente, Arthur. Atualmente nós estamos finalizando a negociação com alguns autores para a publicação dos primeiros livros da coleção. Eu voltarei a falar disso e tenho certeza que nós teremos a oportunidade de falar disso com você. Mas eu posso anunciar, e mantendo um certo suspense, que dentre os primeiros livros haverá um livro de um grande autor brasileiro contemporâneo, que é um grande poema que traz uma reflexão profunda sobre algo que está acontecendo atualmente no mundo, que já aconteceu várias vezes, que é essa reinvenção do fascismo, essa reinvenção de uma política de opressão. E esse poema, que tinha sido escrito nos anos 70, apontava uma reflexão profunda sobre o momento político no Brasil e que ganha uma atualidade hoje. Então nós teremos uma edição crítica bilíngue desse poema. Eu não posso dizer mais, mas daqui a alguns tempos, daqui a alguns meses, nós anunciaremos esse grande título. E é um exemplo do que você disse, uma voz brasileira que merece ser conhecida em língua francesa.
Há nomes que me escapam agora. A nível teatral, sabemos que há peças de teatro, algumas delas depois também foram publicadas em livro, aí é uma riqueza enorme e continua no Brasil. Praticamente quero lá ficar, mas enfim, sabemos que há toda uma literatura, quer dizer, e a nível teatral, que tem a ver com a situação vivida no Brasil, quando havia a ditadura dos chamados generais. De maneira que isso, vocês pensam também que isso poderão pegar nessas peças de teatro? Algumas delas já foram representadas aqui em francês.
Nós estamos, dentro de algum tempo eu vou anunciar mais formalmente os títulos que estão previstos. São títulos, como eu disse, na área de poesia, ensaios também, edições críticas, e quem sabe também uma peça de teatro que mereça encontrar. Nós temos que conciliar a riqueza de todas essas vozes com o público potencial da editora Honoré Champion.
Mas é esse público, quer dizer, trata-se de um público para conhecedores, de intelectuais, de universitários, concretamente. Eu desconheço, peço desculpa, talvez explicar.
Ah, claro.
Qual é, o público das edições Honoré Champion?
É uma editora que tem uma história riquíssima, que nasceu há mais de 150 anos, uhum, e que foi se adaptando ao longo dos tempos. E hoje o grande desafio dessa editora, que tem uma capacidade extraordinária de distribuir livros em bibliotecas, principalmente bibliotecas universitárias do mundo inteiro, são livros de capa dura, com um apoio crítico extremamente refinado. Essa editora hoje encontra o grande desafio, que é de conciliar essa riqueza da tradição com os desafios atuais. Então, por exemplo, os livros são publicados em formato impresso, papel, mas também em formato digital, eletrônico. É justamente essa preocupação em fortalecer a presença de estudos lusófonos, de literatura lusófona, é uma preocupação em atingir um público mais amplo e um público curioso por esses mundos lusófonos. É uma editora, portanto, que tem uma longa história de prestígio e que está sempre preocupada com essa renovação.
Ora, eu agora estou a pensar aos estudantes universitários. A cátedra está de Miranda, não?
Sim.
Pois é, de maneira que nós sabemos, faço um bocadinho de parênteses, não leva mal. Uhum. Tivemos aqui a reforma do BAC, do Liceu e por aí fora. Sabemos que a língua portuguesa aqui, aparentemente, é uma língua rara, por uma exceção, abriram aqui na região parisiense e na Guiana. A Guiana é normal porque tem uma grande fronteira com o Brasil. Até que ponto é que, precisamente, na Universidade Clermont-Auvergne, essa situação, porque nós sabemos, se não há uma continuidade do ensino de português a nível universitário, como é que as coisas se podem passar, os chamados departamentos de português? Será que estão condenados ou vão transformar-se em não sei o quê, mais lusófonos, mais abertos, onde, o lado da língua passa para um segundo plano?
Não, olha, eu comecei a minha carreira como professor universitário na França, uhum, acho que em 1994. E desde então, eu ouço o discurso dizendo que o ensino do português está condenado, está em crise. Eu acho que é o estado permanente, mas o que acontece é que justamente é necessário reinventar o ensino, é necessário ir buscar novos públicos, e é o que, aqui no, na nossa Universidade de Clermont-Auvergne, é o que nós temos feito. Uhum. Desde no ensino inicial, na licença, nós temos um ensino para línguas estrangeiras aplicadas, línguas, culturas e civilizações, estudos internacionais franco-portugueses. A mesma característica acontece no nível do mestrado, e temos também teses de doutoramento até o doutorado. Em todas essas áreas há uma preocupação com a interdisciplinaridade. Então, desde o primeiro ano da faculdade, o estudante estuda a língua, mas também estuda a cultura, mas também aprende, adquire competências relacionadas com a mídia, por exemplo, rádio, vídeo, aprende uma série de competências que são importantes para a carreira profissional depois, e essa preocupação com a inserção profissional do estudante é presente no departamento, e nós temos estudantes, inscrições ainda esse ano, se confirmaram as inscrições dos estudantes, tanto no primeiro ano de faculdade quanto no mestrado, e é isso que dá satisfação em continuar a ensinar. Esse estado, vamos dizer, de crise permanente é ao mesmo tempo um desafio para o professor. O professor precisa reinventar o seu ensino. Atualmente, além das questões das transformações por que passam o campo profissional, tem as transformações relacionadas com a tecnologia. Essas questões, já que você falou da cátedra Sade Miranda, que é uma cátedra da rede de cátedras do Camões, uhum, Instituto, sim, que já existe há 20 anos, essas questões nós vamos debatê-las ao longo do próximo semestre, entre setembro e dezembro, no âmbito do seminário da cátedra Sade Miranda. A grande pergunta que nós vamos procurar responder de diferentes maneiras é como desenvolver saberes no mundo atual. E o título do seminário será Saberes Postos à Prova. Então, saberes postos à prova na área da reflexão literária, mas também na área da tradução. Mas também nós vamos ter um evento muito interessante em que pessoas que trabalham com recursos humanos vão vir discutir com os nossos estudantes sobre as grandes mudanças que estão ocorrendo atualmente no mercado do trabalho, as expectativas do mercado de trabalho e as expectativas da nova geração. Então, é essa maneira de ensinar, se reinventando o ensino e procurando novamente, de maneira permanente, se conectar tanto com a realidade do mundo quanto com as aspirações dos estudantes, é isso que nos interessa, isso que nós temos tentado fazer aqui toda a nossa equipe pedagógica da Universidade de Clermont-Auvergne.
Ora, Solneira, precisamente eu estou recordado que vocês precisamente querem preparar os estudantes para aquilo que virá depois, e como quem diz, para a vida profissional. E se eu me recordo bem, vocês realizaram diversos seminários e isso tudo, precisamente já que esses estudantes pensem numa carreira futura, carreira profissional. Isso é extraordinário, como a universidade, precisamente, se ocupe disso, quer dizer, acabaram os estudos, têm-se o diploma e depois. Isso é qualquer coisa que vocês estão muito atentos, não é?
Exatamente. A universidade é o espaço em que, por definição, o estudante pode testar as hipóteses, pode se formar testando as hipóteses. Então, ele deseja trabalhar em um tal setor, ou ele não sabe em qual setor, então nós conduzimos o estudante a identificar qual setor interessa, mas é preciso conciliar esse interesse com as capacidades reais do estudante, se necessário ver quais as lacunas e completar essas lacunas, preencher essas lacunas, se necessário não, em geral é fundamental enriquecer essas aspirações com uma experiência concreta de estágio, uma experiência concreta de mobilidade internacional. A internacionalização dos estudos é algo fundamental, e é justamente nessa época, no começo, em que o estudante ainda está na licença, no master e até no doutorado, é nessa época que ele pode fazer esses testes para ir se formando e adquirindo a experiência necessária para, em seguida, entrar na carreira profissional. E nós temos muita consciência disso e temos muita preocupação em alertar o estudante e chamar a atenção do estudante para o fato de que a universidade é uma passagem na vida dele e é ele mesmo que vai construir a sua própria carreira já dentro da universidade.
Solneiva, ainda duas questões, mas a primeira, a Universidade de Clermont-Auvergne tem um certo número de parcerias com outras universidades. Bom, há cátedra também ligada ao Instituto de Camões, mas quais são as vossas parcerias? Porque isso é bastante importante também, não, essa parceria.
Uhum. Claro, são muitas parcerias, eu vou citar algumas, com o risco de esquecer. Então, em Portugal, nós temos a Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra. E no Brasil, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal de Minas Gerais. Estamos concluindo um acordo com a Universidade de Brasília. Temos também a Universidade Federal Fluminense. Em todas essas universidades, os estudantes podem fazer uma mobilidade em todas elas, uma mobilidade internacional de um semestre. É possível, em alguns casos, também realizar, por exemplo, uma coorientação, uma cotutela de tese de doutoramento ou de mestrado. E nós também acolhemos estudantes dessas universidades e professores nos dois sentidos também.
Ao que parece, a cultura não é rentável. Bom, está a ver onde quer chegar. Precisamente, nós sabemos que aqui em França há contenções orçamentais enormes e muitas universidades vivem graves problemas financeiros, na medida em que as dotações vão se reduzindo. Há poucos investigadores, cada vez menos, são mal pagos, condições precárias mesmo para os professores, sem esquecer as instalações para os estudantes. Qual é a situação aí da Université Clermont-Auvergne? Porque, bom, sobretudo quando se fala de literatura e esses ramos do ensino, bom, tem que andar à procura de financiamentos privados. Como é que se passa aí em Clermont-Auvergne?
A situação é uma situação grave. A situação financeira da universidade é algo inédito de todas as universidades francesas. A nossa universidade é uma universidade que é bem gerida financeiramente dentro do panorama internacional, mas a situação atual é uma situação extremamente grave. Diante disso, como é que nós podemos avançar até que a situação melhore e contribuir para que a situação se transforme? O que é que nós temos feito? Tem sido feito economias, então, por exemplo, fusão entre diferentes aulas, isso tem sido feito. No âmbito da investigação, tem havido uma preocupação cada vez maior de incentivar os colegas a responderem a editais, a chamadas de projetos internacionais para poderem ter um financiamento complementar para realizar as suas investigações. Agora, voltando à primeira afirmação que você faz, a cultura não é rentável. Eu ouço a sua ironia ao dizer isso, porque nós sabemos muito bem a que ponto a cultura é rentável, a que ponto é um setor que, com investimentos, são empregos que são criados. A importância fundamental da cultura para uma comunidade, para um país, para o funcionamento da vida das pessoas, para a construção de um imaginário comum. E o setor universitário e o setor científico são setores fundamentais então, a grande preocupação que nós devemos ter é, enquanto cidadãos, pensar em ações durante as eleições, votar em políticos que tenham essa preocupação, tenham a consciência plena da importância da ciência, a importância da cultura e da educação no mundo e aqui, no caso, na França.
Com efeito, as ditaduras não gostam nada da cultura. Longe disso, basta ver aqui o que se passa certo no país. Vocês aí no Brasil conviveram, em Portugal igualmente, mas enfim, como diz outro, e vocês, a sociedade, são vocês que formam os cidadãos, é muito importante. Saul Neiva, muito obrigado, de maneira que podemos, pelo menos, avançar uma data da primeira publicação, precisamente da coleção Literaturas Estrangeiras, nas edições Honoré Champion, dedicada à lusofonia. Há uma data ou ainda não?
Eu creio que o primeiro volume estará pronto no fim de 2025 ou no começo de 2026. Antes disso, eu anunciarei os títulos que já estão previstos, mas fim de 2025, começo de 2026, é necessário mais ou menos um ano para a elaboração de um livro, uma vez que o manuscrito está pronto, para a impressão, a releitura. É um trabalho minucioso que é realizado. Então, eu diria no começo de 2026 ou no fim de 2025.
Saul Neiva, muito obrigado, então. Muito obrigado.
Muito obrigado, Arthur.
Um abraço.
Até mais. Um abraço.
Reta final da passagem nível deste domingo e vamos a um romance policial, O Clube de Macau, de Pedro Garcia Rosado, edições Chondenho e Lima, um livro que data de 2020, Macau, Portugal, mas isto tem muito a ver com a sociedade portuguesa e não só com o sétimo de personagens, Pedro Garcia Rosado.
Sim, há um conjunto de personagens que têm os seus princípios de vida profissional em Macau, que é um sítio emblemático da vida política portuguesa.
Há cinco amigos, não sabemos muito bem se eles são amigos ou não, porque temos um juiz, temos um locutor de televisão e temos igualmente alguns polícias, nem mais nem menos. Ora, eles decidem criar um clube muito especial, não é? Na medida em que...
Um clube dedicado aos prazeres da vida, uhum, no aspecto sexual, e portanto diz que têm uma posição social que lhes facilita o controlo da matéria-prima, ou seja, dos seres humanos que irão satisfazer os seus desejos.
Com efeito, trata-se de menores chinesas. Elas tinham um sonho de poder sair de Macau, mesmo algumas pensar em casar, mas as coisas deram um pó torto na medida em que, precisamente, um dos membros desse clube, quero-me referir ao Carlos Vasques, foi ele que destruiu o clube. Porquê? Porque se agarrou a uma chinesa, foi?
Sim, e acontece que essa jovem parece morta, e como mandam as regras, já ter sido morta por alguém desse grupo. A partir partir daí, bom, as relações, digamos, entre as pessoas azedam-se um pouco e é a contar pela vida. E, portanto, para Portugal continental, uns anos mais tarde. E depois, a partir daí, eu não vou contar a história.
Não, mas é evidente, Pedro. Não, porque depois há uma questão de vingança e por aí fora, mas em pano de fundo, precisamente, entretanto, o nosso juiz é Procurador-Geral da República, de maneira que um posto central, toda a gente tem medo dele, mas é uma personagem mesmo sinistra e perigosa, não?
Exatamente. É uma espécie de fanático da... de fanático da justiça, de justicialista, com um ideário político muito próprio, e que, aliás, enfim, não surpreende que possa eclodir um caso desse, por exemplo, num setor da sociedade que está às vezes tão fechado ao resto da sociedade e que, portanto, também desenvolve as suas próprias crenças, as suas próprias... os seus próprios sistemas de pensamento e de raciocínio e de conclusão. E, de facto, acontece que esse Procurador-Geral da República tem essa perspectiva e ganha um poder, como às vezes nas sociedades contemporâneas e noutras, mas noutra forma, um Procurador-Geral da República que tem o controle de todo o sistema judiciário pode ganhar. E depois, a partir daí, pode ter outros sonhos de aplicação da sua fé política, ideológica e justicialista à sociedade de uma forma eventualmente legitimada pelo voto.
Sim, porque ele queria ser candidato à presidência da República, não era?
Exatamente. Aliás, é um caso de, em Portugal também tivemos, enfim, um Procurador-Geral da República que se disse e que desejaria ser candidato à presidência da República. Não foi, mas enfim, as pessoas têm as suas regras, quer dizer, há regras gerais, a partir dos 35 anos já podem ser, etc. Mas as pessoas tentam ser, outras não conseguem, outras são, enfim.
Pedro Garcia Rosado, o problema, agora vou fazer uma tradução literal daquilo que se diz em francês, o problema é que esse Procurador-Geral tinha um cadáver no armário.
Pois, também tem a sua história de facto que nasce em Macau, nesse cúmulo, portanto, e sendo já uma pessoa muito forte, de afirmação muito forte, terá sido um dos principais protagonistas das coisas menos claras que aconteceram nesse grupo de amigos. Mas eu só posso supor como narrador, porque eu não estava lá para ver.
Mas, Pedro, em pano de fundo, há o caso Casa Pia. Nós sabemos que 7 mil pessoas foram julgadas. Aliás, há um enredo neste romance policial. Levantam 7 mil interrogações. Bom, evidentemente que a justiça, ou que parece, passou ou não passou. Mas uma coisa certa é que por trás deste enredo policial está a questão de saber aquilo que se passou efetivamente na Casa Pia, quem estava implicado, quem não estava implicado, toda uma série de documentos, pelo menos, bom, é isso que está narrado. Bom, isto é
eu acho que condenou 6 dos 7 mil, a senhora foi resolvida. Claramente o que aconteceu. Por um lado, pelo ruído todo que houve, por outro lado, pela multiplicação de efeitos, porque isso tocou praticamente todos os setores da sociedade, ou pelo menos as suspeitas sobre a participação de pessoas individualmente consideradas, que de todos os setores políticos, partidários, do meio empresarial, do meio artístico, do meio cultural, médicos, etc., ficou uma nuvem de suspeita que tem a ver, por um lado, político, que tem a ver, por um lado, com a facilidade de acesso aos jovens que estavam à guarda do Estado na Casa Pia, que é uma instituição de beneficência, e, por outro lado, também com o facto de que muitos jovens acabaram também por ir dessa bolha onde estavam, entre aspas, protegidos, para situações de prostituição clara, em que vendiam o corpo por favores, num sítio muito específico da capital portuguesa, de Parque do Partido, onde houve todas as filmagens feitas por televisões para ilustrar o problema da prostituição, que num lado era masculina e no outro lado era feminina, em que as matrículas dos carros que estavam tapadas, já numa situação de pós-edição, porque eram visíveis. Portanto, também as televisões que foram filmar, os jornalistas também souberam, também podiam saber a quem pertenciam os carros. E do depois aí há duas situações. Há uma ou outra que é o facto de ter aparecido, no momento que se disse isso que se escreveu, quando a Polícia Judiciária começa também a interrogar um jovem, a perguntar quem era esta pessoa, quem era aquela, apresenta uma lista com de pessoas identificadas, com fotografias, de mais variados meios. A pergunta foi este, foi aquele. Pessoas que não apareciam nos jornais, ou sobretudo nas televisões, não podiam ser identificadas, porque não era possível associar, digamos, a imagem a um nome. Portanto, há todo esse clima de suspeita, de qualquer modo, na Polícia Judiciária, se essa lista no Ministério Público, se essa lista era real ou não era, ou foi uma coisa aleatória, ou vamos atirar o barra pedra, nunca se conseguiu saber quem é que não estava fora da lista. Por outro lado, a situação deixou as pessoas, porque um potativo candidato à Presidência da República, um deputado, um ilustre deputado, que nunca foi, que nunca quis ser, porque foi afastado pelos rumores que pesavam sobre o seu envolvimento no caso de Catapia, houve um ministro logo no princípio que se demitiu. Temos uma figura do Estado que aparece numa gravação proibida, mas eu ouvi, muita gente que ouviu, de conversas entre um jornalista do Correio e o então diretor do Polícia Judiciária, disse que essa pessoa não foi acusada porque nessa altura o crime de abuso sexual de menores não era público, dependia da queixa da vítima. A vítima não se queixou, não pode haver acusação, pode haver inquérito e acusação. Depois disso, o crime de abuso sexual de menores passou a ser público da queixa. Portanto, é lá. E, portanto, é essa suspeita que se mantém hoje em dia. Pessoas que não se livram dela desde que os outros saibam.
Mas é precisamente, voltemos ao romance, lembra a edição em França, publicada pelas edições Chondain, do Clube de Macau. Ora, finalmente, bom, já fizemos um retrato do antigo juiz, depois o Procurador-Geral da República, Carlos de Sousa Ribeiro. Bom, é verdade que era uma pessoa detestável. Há outros que talvez não sejam melhores, como é o caso do Carlos Vasques, não é? Ele ao lado até parece alguém que é positivo aqui no romance, não é? É um paradoxo?
ele é sempre interessante, porque ele é, de certo modo, ele não é uma pessoa, não é um herói, ele não é, quer dizer, vamos lá ver, ele é uma pessoa simpática, tem o que faz pela vida, teve o seu problema, a rapariga morreu, enfim, percebe que houve ali de facto que é feita criança, mas por outro lado, é uma pessoa que trabalha no teu métier, não é, quer dizer, tem que ganhar pela vida. Por outro lado, ele também, por força das circunstâncias, por um lado, por outro, talvez pela sua formação de polícia também, também percebe muito claramente como é que pode lidar com os maus, como é que pode lidar com os outros criminosos. Portanto, de facto, é uma pessoa que está a lutar pela vida e por aquilo em que acredita, mas também é uma pessoa que traz consigo uma bagagem que o torna uma pessoa negativa.
Sim, é um assassino mesmo, não é? Ele não hesita a assassinar.
Como é que eu ia dizer? Não posso justificar. Mas vamos lá ver uma coisa. Sim, porque ele entende que é aquilo que tem que fazer e é o que melhor serve os seus interesses. Mas se o faz com gosto, olha, não sei.
Deixemos de interrogação. Pedro, eu descobri, bom, ainda me estava acordado de Amorce e Letage, como que diz Ulianov e o Diabo, o nosso inspetor da PJ, José Moura. Ele aqui aparece outra vez desta feita no Clube de Macau.
Sim, as histórias são passadas. Portugal é um meio pequeníssimo, não é? Portanto, é natural que muitas pessoas cruzem. E, portanto, eu estou a falar de situações, estou a contar histórias passadas no mesmo tempo, na mesma linha de tempo, aproximadamente, no mesmo local, nos mesmos sítios, nos mesmos círculos, etc. E, portanto, pode haver pessoas que se cruzem. O inspetor José Moura, que acho eu, tentou ajudar o Ulianov naquela altura, e depois, até uma pessoa essencialmente honesta, quis saber o que se passava, porque houve ali coisas que se cheiravam mal, não conseguiu.
Bom, evidentemente vamos deixar os nossos ouvintes de ler o livro, o romance policial do Clube de Macau, nas edições Chondenha. Pedro Garcia Rosado, muito obrigado, bom trabalho e...
Muito obrigado, tenho muito gosto.
Foi a passagem nível, voltaremos no próximo domingo.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.